Radio Prague, les informations.
Le chef de l'ODS, Mirek Topolánek, appelle le premier ministre Jiří Paroubek à démissionner. Jiří Paroubek estime qu'il faut transformer l'agence de consolidation tchèque, décès d'un soldat tchèque au Kosovo. Le chef du Parti civique démocrate ODS, Mirek Topolánek, a appelé le premier ministre et chef de la social-démocratie tchèque, Jiří Paroubek, à démissionner pour permettre à la République tchèque de sortir de l'impasse post-électorale. Jiří Paroubek a rappelé dans ce contexte d'avoir proposé sa démission déjà au mois de juin dernier. À ce moment-là, sa proposition avait été cependant rejetée par le président de la République, Václav Klaus. Au cas où le premier ministre tchèque actuel Jiří Paroubek resterait chef du gouvernement pendant le prochain mandat, il démantellerait l'agence de consolidation tchèque, une déclaration faite par Jiří Paroubek lors d'un débat à la télévision. L'agence de consolidation est un organe d'État qui s'occupe de l'administration de crédits et de créances qui lui ont été confiés dans le cadre de la transformation de l'économie tchèque et sur laquelle pèse un soupçon de corruption. Un soldat tchèque du contingent tchèque des forces internationales de la paix au Kosovo a été trouvé mort ce dimanche par son collègue dans le campement de la base de Chaikovac. Il ne semble pas que le soldat soit victime d'une agression, mais les circonstances de sa mort font l'objet d'une enquête de la police militaire. Le festival de la musique techno, Czech Tech, qui a eu lieu ce week-end dans un espace militaire près de la commune de Machtov, en Bohême de l'Ouest, touche à sa fin. La fête à laquelle ont pris part quelques 40 000 personnes surveillées par 400 de policiers s'est déroulée dans un calme relatif. Des centaines de personnes ont participé ce dimanche à la fête celtique de l'opulence, le Gnazat, au château de Nijbor en Bohême centrale. Ils ont assisté à un riche programme inspiré par la culture celtique. Concerts, démonstrations d'artisanat traditionnel, leçons de danse, projections de films, etc. Les athlètes français de moins de 22 ans ont remporté ce dimanche le meeting sportif qui a opposé à Plzeň-en-Bohême de l'Ouest les équipes de France, de Hongrie et de République tchèque. L'équipe tchèque s'est classée deuxième. La météo. Ce dimanche, fête de tous les Bojivoj selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été clair à variable avec quelques rares averses et orages. Les températures diurnes se sont situées entre 27 et 31 degrés. Lundi, le temps en Tchéquie sera nuageux avec des averses et des orages, notamment sur le sud et l'ouest du pays. Les températures atteindront jusqu'à 31 degrés. C'était les informations présentées par Václav Richter.
Culture sans frontières. Magda Segertova.
Merci d'écouter Culture sans frontières. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps à la découverte de la danse baroque avec les ensembles tchèques et français Collegium Marianum et la compagnie L'Éventail. La compagnie de danse baroque L'Éventail, implantée depuis 2001 à Sablé dans les Pays de la Loire et dirigée par Marie-Geneviève Massé, regroupe artistes, danseurs, musiciens, chanteurs et comédiens. Le jeudi 27 août, elle a donné un spectacle au théâtre pragois Divadlo na Vinohradech dans le cadre des festivités d'été de musique ancienne. Deux ballets majeurs du XVIIIe siècle étaient à l'affiche. Les éléments de Jean Ferry-Robel et Don Juan, le festin de pierre du compositeur allemand Christoph Willibald Gluck, qui a d'ailleurs grandi dans le nord de la Bohême. Les éléments, une symphonie chorégraphique imitant la nature et mettant en scène des personnages féeriques tels que le feu, l'eau, l'air ou le rêve, aussi bien que Don Juan, un véritable ballet d'action issu de la Commedia dell'arte, sont des œuvres révolutionnaires dans l'histoire de la danse. Alors qu'au XVIIe siècle, la danse était inséparable de la voix parlée ou chantée, avec Rebel et Gluck, on passe vers le ballet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est pour avoir créé Don Juan pour la première fois il y a 5 ans à Sablé, avec l'Orchestre tchèque de musique ancienne, Collegium Marianum, et aussi parce que l'Europe centrale est le berceau de ce ballet d'action du XVIIIe siècle, que la chorégraphe et danseuse Marie-Geneviève Massé a voulu présenter ce spectacle à Prague, elle explique.
En France, après que Jean-Ferry Rebel ait fait ses expériences musicales avec les symphonies chorégraphiques, la France, à l'opéra, avait vraiment une grande tradition. Il fallait continuer ce que Lully avait fait. Et donc, en dehors de la tradition, point de salut. Et parce que ça représentait vraiment le grand siècle. Et donc, beaucoup d'artistes sont partis en Angleterre. En Angleterre aussi, il y a eu énormément de choses qui sont faites par rapport à cette naissance du ballet tel qu'on l'entend maintenant. Et puis, oui, en Europe de l'Est, c'était quelque chose de très vivant, comme on voit avec l'architecture et tout ça. Hein. Et les danseurs devaient s'y retrouver. Il y a des dynasties de danseurs comme ça qui ont traversé le monde, qui se sont croisés. Angiolini qui a été aussi beaucoup en Italie. Ça fourmillait énormément de gens, de voyageurs. Il n'y avait pas les médias comme maintenant. Hein. On ne s'installait pas devant la télé pour voir ce qui se passait dans le monde. Donc, il fallait se déplacer. Là, il se trouve que c'est à Vienne. La France a été très longtemps le point de référence de l'art baroque en ce qui concerne la danse et la musique. Et donc à la fois les pays alentours ont voulu l'imiter et en même temps ils ont amené leur propre culture, leur propre imaginaire, imagination, inventivité.
Et comment faites-vous pour recréer un ballet baroque aujourd'hui, au XXIe siècle ? Il y a des chorégraphies qui se sont conservées, des éléments où vous recréez, où vous faites votre propre chorégraphie en fait.
Oui. Alors, il existe des chorégraphies de l'époque qui vont entre 1700 et 1725-30 particulièrement. Après, il y a encore quelques-unes, mais très très peu. Et donc, les chercheurs, Francine Lancelot qui était mon maître, et puis tous ceux qui ont fait vraiment de la recherche se sont appuyés sur tous les traités pour pouvoir réinterpréter ces chorégraphies. Donc moi je continue à faire ça, on a un travail d'atelier plus ou moins régulier sur ce travail de recherche, de réinterprétation, de reconstitution. Mais de tous les ballets qu'on a, la Rebelle, les éléments, là le Don Juan et plein d'autres ballets, nous n'en avons pas les chorégraphies. Donc c'est ça qui est séduisant pour un créateur, hein, c'est que à la fois je m'appuie sur toutes les connaissances comme un architecte ou comme un écrivain, je veux dire un écrivain, un philosophe ou quoi qui n'aurait jamais lu Socrate, tous les anciens, Voltaire, etc. Comment dire, on ne peut pas ne pas lire tout ça. Alors, selon la demande, le contexte dans lequel je dois faire le ballet, j'essaye d'être le plus rigoureuse possible par rapport à une, pas une reconstitution, mais à une recréation la plus en harmonie possible avec tout son contexte historique. Et puis, y a d'autres fois où je peux prendre beaucoup plus de liberté. Et puis, il y a plein de choses qui m'échappent aussi, inconsciemment. En tout cas, pour le Don Juan et le Rebelle, je n'ai pas cherché à faire quelque chose de fantaisiste, à y mêler des choses contemporaines, des choses... Non, j'écoute énormément la musique. Hein. Pour moi, c'est la musique qui me dicte ce que je dois faire. Aussi parce que j'ai cette culture, hein, ça fait 25 ans que j'étudie la danse académique, la danse baroque. Et donc, il finit par y avoir dans ma chair une manière d'écouter cette musique et de sentir le mouvement.
Qu'est-ce qui vous fascine en fait dans la danse ancienne ?
Moi, la musique, c'est ma vie. Si j'entends une musique qui m'émeut, elle passe dans mon corps, c'est du mouvement, ça devient du mouvement. Et il se trouve que quand j'ai découvert cette danse ancienne en 1980 avec Francine Lancelot, il s'est passé quelque chose dans mon corps, une sensation que je n'ai pas trouvé ni dans le classique ni dans le contemporain, d'une relation à la musique. Il y a quelque chose de très intime. Vous voyez, quand vous faites de la danse ancienne, quand vous utilisez ce vocabulaire de la danse ancienne, c'est du temps par temps, c'est du demi-temps par demi-temps. Il se passe quelque chose très très en liaison avec la musique. C'est pas des grandes phrases musicales comme en classique où vous entendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et à 8 vous faites le grand jeté et les 7 temps qu'il y a eu avant c'était un petit peu du remplissage. Là, peut-être je suis méchante en disant ça, mais c'est ce que je ressens. Après il n'y a pas le jugement là, c'est moi ce que je ressens. Alors que dans la danse baroque, chaque seconde, chaque dixième de seconde est tellement liée à la musique, c'est comme un couple, il y a une ivresse, on est dedans, on s'appuie dessus, voilà, moi c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que j'essaye de le faire passer aux autres.
Il y a de l'intérêt de la part des danseurs en France pour la danse baroque ?
Ah oui, manifestement, oui. Et paradoxalement, plus les danseurs contemporains que les danseurs classiques. Comme si les danseurs contemporains voulaient aussi retrouver leurs racines. Et oui, analyser ça, un sens de l'espace, une relation à la musique qu'ils ont perdu pour beaucoup, ils ont vraiment perdu ça. Et là, peut-être, au lieu de passer par le classique qui a quelque chose de peut-être plus rigide à leurs yeux, là, avec le baroque, ils découvrent aussi tout un monde aussi historique. Je pense que nos générations sont très penchées sur le passé, sur rechercher nos références, nos racines, quoi. Donc il y a ça aussi, moi, quand vous me demandiez tout à l'heure pourquoi j'avais été séduite par la danse baroque, bon, en dehors de la question artistique, de l'émotion que je ressens moi, il y a aussi tout l'aspect intellectuel. Je crois que si j'avais pas été danseuse, j'aurais fait quelque chose dans l'histoire. Je suis passionnée par tout ce qui a trait à l'histoire, nos ancêtres, oui, c'est quelque chose qui me fascine. Donc je pense qu'il y a aussi tout cet aspect-là que les danseurs retrouve. C'est une complémentarité entre le côté intellectuel et le côté physique qu'il n'y a pas forcément dans beaucoup d'autres danses.
Kdyby se řeklo, že je tady 15 tančících tanečníků, tedy ne těch skrytých, kteří možná ještě přijdou.
Si je disais qu'en République tchèque, il y a une quinzaine de danseurs qui se spécialisent dans la danse baroque, ce ne serait qu'approximatif. Il se peut qu'ils soient plus nombreux, sauf que je ne les connais pas, explique Jana Semeradova, flûtiste et danseuse occasionnelle qui est à la tête du prestigieux ensemble Collegium Marianum. Les adeptes de la danse baroque peuvent d'ailleurs se former au Centre culturel pragois éponyme ou encore à l'étranger, à l'Académie internationale de musique et de danse ancienne de Sablé, par exemple, qui est liée ainsi que tous les festivals de Sablé d'un partenariat privilégié avec la République tchèque. On écoute le directeur du festival, Jean-Bernard Meunier.
Trop souvent, dans les échanges comme ça, on vient, on donne un concert une année, on s'en va, et puis on disparaît 2 ans, 3 ans, puis un jour là, on va refaire un concert à Prague. Et moi, je voulais pas du tout ça, je voulais vraiment qu'on lie un travail dans la durée avec tous les secteurs où il y avait effectivement un travail à faire. Et c'est l'Institut français, bien sûr, qui a défini un petit peu les éléments en nous disant ben, il y a un vrai problème de formation des musiciens, ils sont en attente. Il y a un travail sur les recherches, il y a des ensembles, et très bons ensembles de musiciens tchèques en musique ancienne. Mais ils ont beaucoup de mal aussi à tout faire. Donc un travail de recherche et un travail de diffusion. Ces musiques inconnues du répertoire tchèque qui sont dans les bibliothèques ici, il faut les faire connaître. Voilà. Et nous sommes partis, nous, sur cette idée-là. Ce qui fait qu'actuellement, nous organisons des masterclass à Prague à chaque fois que nous pouvons avec des artistes français. Nous faisons des recherches. Nous envoyons des artistes français faire des recherches. Nous montons des programmes de musique tchèque que nous donnons bien sûr en première à Prague ou quelquefois dans d'autres pays européens avec l'Institut français et que nous redonnons en France à Sablé et dans d'autres festivals. Ce qui nous semble important, c'est de travailler sur les échanges et la mixité des ensembles. Moi, j'invite depuis 2 ans Musica Florea à Sablé, pratiquement avec une carte blanche, en disant, ben voilà, présentez-nous la musique que vous avez envie de présenter à Sablé. Et Marek Strinkel le fait. Là, Musica Florea vient en France cet été. Je leur ai proposé, ils avaient besoin d'une soprane. On a échangé, ils nous disaient, ce serait bien qu'on prenne nous aussi une chanteuse française avec les musiciens tchèques. Donc je leur ai proposé de prendre une chanteuse française. Voilà, nous partons comme ça sur des échanges, pas toujours. Nous avons un gros projet avec Collegium 1704, donc la 100% pragois que nous allons soutenir. Certainement l'année prochaine, qui devrait être créée à Prague et qu'on va accueillir à Sablé. Et j'espère qu'on pourra faire l'enregistrement. C'est une messe votive de Zelenka dans la collection de disques de Sablé. Là aussi, c'est le prolongement naturel que nous avons. C'est-à-dire que non seulement nous créons l'œuvre, mais pour lui donner une durée de vie, nous essayons de créer un disque qui est diffusé bien sûr en France et avec des soutiens d'une banque pragoise, nous espérons pouvoir très vite diffuser ces disques de façon importante à des tarifs abordables ici en République tchèque.
Ajoutons qu'il existe d'autres projets encore entre Sablé et Prague, par exemple celui d'y délocaliser certains cours de l'académie. Pour revenir à la campagne L'Éventail, dans les mois à venir, elle donnera son Don Juan à l'Opéra de Rennes ou encore à l'Opéra Royal de Versailles. Fin de Culture sans frontières par Magdalena Segertova-Rosinkova. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt sur Radio Prague.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Jarka Gregorova.
On est en plein été, un été torride. Le soleil tape fort, la chaleur est écrasante. Les pavés dans les rues de Prague sont brûlants, le macadam goudronné coule presque. Certains quartiers désertés font ville fantôme, les trois quarts des habitants partis en vacances. Pourtant, la chaleur ne décourage pas les touristes. Ils sont là, bien présent, à traverser le pont Charles et à se balader dans les rues surchauffées de la vieille ville. Tout de même, certains touristes peuvent être saturés par les cathédrales, les églises baroques et tous ces monuments magnifiques. Se plonger dans l'eau rafraîchissante n'est pas si mal par une journée dépassant les 30 degrés. Je vais vous faire découvrir, chers auditeurs, une plage originale qui diffère de la banalité des piscines surpeuplées. Il s'agit de Jlotelazne, les bains jaunes. Cette plage est pratiquement un monument. Ouverte en 1910, elle fut divisée en deux parties, les bains jaunes et les bains bleus, d'après la couleur des clôtures et des cabines. Aujourd'hui, on retrouve ces couleurs à l'entrée. La clôture a été traditionnellement repeinte en jaune, des petits rayons par-ci par-là sur la plage, sans oublier le café bleu qui se trouve également sur la plage. Au début du siècle, il y avait beaucoup de plages au bord de la Vltava. La plus connue était située au bas des fameux rochers de Barrandov. Dans les années 30, c'était un endroit très dans le vent, lieu de rencontre des stars de cinéma et de la crème de Prague. Jlotelazne, les bains jaunes, suivaient de près. On venait, on matait, on draguait ouvertement. Elle et lui se rencontraient et, après avoir conclu, disparaissaient dans les cabines. Enfin, c'était la plage de l'amour. Les cabines étaient une chose précieuse. Elles s'héritaient de génération en génération. Oh, behold, oh, behold, Pendant la crue en 2002, la plage a été presque entièrement détruite. Près de 400 cabines légendaires ont fini dans les flots déchaînés de la Vltava. Après la baisse des eaux, il était évidemment nécessaire de reconstruire l'ancienne plage. C'est la société Taiko qui s'est chargée de cette tâche importante et difficile. On a enchaîné sur les quelques restes, comme les WC, le bâtiment administratif, le dépôt, etc. De grands travaux à investissement importants ont été effectués. Le résultat est plus que satisfaisant. Un café internet, un jeu de ping-pong, un jeu d'échecs gigantesque, un espace pour faire du roller, deux piscines pour enfants, dont l'une destinée uniquement pour petits pédalos et bien d'autres endroits pour s'éclater, attendent les visiteurs. On a même réservé un coin aux amateurs de nudisme. La plage est recouverte en majeure partie d'herbe et une partie de sable. Au cours des travaux de reconstruction, on a évoqué l'idée d'une grande piscine devant être placée sur un énorme bateau amarré à côté de la plage, mais finalement il n'en sera rien. Le gérant m'a informé que cela nécessitait un investissement trop lourd et qu'un petit lac à fond de sable était en vue pour l'année prochaine. L'eau serait filtrée et proviendrait de la Vltava. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait sûr et certain. N'empêche que l'endroit est agréable. La Vltava est relativement propre car la plage se trouve tout aux abords de la capitale. Sauf que l'eau est toujours un peu fraîche, dépassant rarement les 19 degrés. Sinon, il y a quelques restaurants et stands avec rafraîchissement. Pendant la Coupe du Monde, un grand écran était placé dans un des restaurants ouverts pour permettre aux clients de suivre les matchs de foot. Au mois de juillet-août, des concerts, des discos et d'autres activités intéressantes sont au programme. À part tout cela, il y a deux grands restaurants très classe, les Delphes et le Sultan, donnant sur la plage, mais il faut être plutôt habillé pour y rentrer. Les clients de ces restaurants viennent jeter un coup d'œil sur la plage Jlutelazne, les bains jaunes, mais évidemment, il n'est pas interdit aux clients de la plage d'y rentrer, à condition d'être habillés correctement. Encore deux autres endroits idéaux pour la baignade que j'aimerais vous faire découvrir, chers auditeurs. Sauf qu'ils ne sont pas à Prague, mais tout de même à proximité de la ville et très appréciés par les Pragois. Il s'agit de Probošťská jezera, ce qui veut dire les lacs de Probošť et du lac de Lhota. Les lacs de Probošť se trouvent au nord de Prague, dans la plaine de l'Elbe. C'est aux environs de la ville historique Stará Boleslav, où fut assassiné en 935 le prince Saint-Venceslas à l'entrée de l'église et de Brandis nad Labem. À l'origine, il y avait une carrière de sable et de gravier. Actuellement, il y a des lacs à eau limpide que l'on peut traverser à la nage et qui sont reliés à l'Elbe par un petit canal. Les plages sont soit sablonneuses, de sable et de gravier, ou par endroits recouverts d'un tapis d'herbe. Les arbres et les arbustes ajoutent à ces lieux une touche de romantisme. Il y a également un camping et quelques stands de rafraîchissement. Le deuxième endroit, le lac de Lhota, est tout comme les lacs de Probošť situés à une vingtaine de kilomètres de Prague, près de Stará Boleslav et de Brandis nad Labem toujours. Là aussi, il y avait jadis une carrière de sable fondée en 1965 pour servir à la construction de l'autoroute et du métro. Le gisement a été condamné en début des années 80. La profondeur du lac atteint par endroits 14 mètres. Sous le régime totalitaire, une première plage publique nudiste a été ouverte sur le lac Lhota. Mais il y a deux désavantages. Par rapport au lac de Proboszcz, il y a souvent trop de monde au lac de Lhota et le sable dessèche un peu la peau, donc il faut s'équiper d'une crème traitante. Par contre, les lacs de Proboszcz ont tendance à se recouvrir d'un tapis végétal lorsqu'il fait très chaud pendant trop longtemps. Mais ce sont des endroits délicieux où on apprécie vraiment la baignade. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à vos idées, remarques et suggestions. Contactez-nous, écrivez-nous.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.